Radio Starbit.
One edition from NPR
News.
France Inter. Le 18-20.
L'escale, le reportage d'un jour dans le monde vous fera froid dans le dos. C'est une Amérique qu'on connaît bien sûr, mais confrontée à elle, vous comprendrez mieux. Nous allons à Baltimore, la ville qui compte le plus de morts par arme à feu des États-Unis. 18h40 sous les radars avec Florence Paracuelos. Le Brexit saison 2 et Antoine Gignot avec cette question. Est-ce que le Brexit va tuer le rock'n'roll? 18h45, Alexandra Akoun nous raconte Russia Today dans le monde, là où elle est déjà installée. La chaîne a fait parler d'elle et vous verrez comment. 18h55, c'est l'édito d'un jour dans le monde et Anthony Bélanger ce soir en Afrique du Sud et les élections à l'ANC. Mais tout de suite, direction la Catalogne, cette élection aussi fondamentale que baroque quand on songe que deux des principaux candidats sont soit en exil, soit en prison. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Et je veux dresser un message à M. Juncker, à tous ses amis de M. Rajoy. Écoutez bien. Est-ce que vous avez vu dans aucun endroit du monde une démonstration comme celle-ci pour soutenir des criminels? Quand la prochaine fois que
un extrait de Carles Puigdemont qui, en français, s'adresse à ses troupes indépendantistes depuis Bruxelles. Ils étaient 45 000, c'était le 7 décembre dernier. Une manière de montrer combien ces élections qui se tiennent jeudi, donc le 21, incroyable élection anticipée, puisque les dirigeants, je le disais à l'instant, sont, pour certains en tout cas, soit en exil, soit en prison. Bonsoir Christophe Barré.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne. Drôle d'élection quand même, on va dire que c'est une première, non?
C'est une première, oui, avec des candidats en prison. Alors, un élu en prison, c'est déjà arrivé au Pays Basque il y a quelques années, mais c'était un élu, un seul. L'autre enjeu, bien sûr, c'est l'intégrité territoriale d'un grand État voisin européen, avec donc ces deux camps qui continuent à s'affronter entre indépendantistes et unionistes, dit-on, constitutionnalistes aussi.
Alors, il y a un mandat d'extradition contre Carles Puigdemont qui, lui, a été levé, mais sa potentielle arrestation, s'il arrive à Barcelone, là, pour le coup, elle n'a pas été levée, elle reste, donc s'il gagne, il se passe quoi? Il file en prison, c'est ça?
Elle reste, il file en prison. On murmurait ces derniers jours qu'il pourrait retourner justement pour faire un coup médiatique.
C'est toujours dans l'air.
C'est toujours dans l'air. Ça peut arriver. Il n'a pas besoin de cela maintenant, un petit peu pour remonter dans les sondages. Sa popularité est très haute, même si c'est l'autre parti unioniste, Esquerra Republicana, la gauche républicaine, qui est en tête, puisque le camp indépendantiste, cette fois-ci, va diviser devant les électeurs.
Alors, j'allais vous y emmener, justement, diviser effectivement entre Oriol Junqueras d'un côté et Carles Puigdemont de l'autre. Junqueras qui a d'ailleurs déjà aujourd'hui fait une sorte de reculade. Est-ce que c'est une manière de mettre de l'eau dans son vin en disant attendez, l'indépendance totale, on n'y est pas encore peut-être que finalement on peut discuter avec Madrid.
Tout à fait, lui il est en prison puis il tend pas les bras, mais il a un programme, celui de son parti Esquerra Republicana, qui est plus modéré que celui de Puigdemont, qui est donc de continuer vers la transition à l'indépendance. Le programme, donc il tend les bras un petit peu au Parti Socialiste, qui lui-même ce week-end a eu un discours assez adouci. Monsieur Iceta, qui est le candidat socialiste, a dit qu'il fallait une amnistie en cas d'élection. Donc bien sûr, on se dit qu'il y aura peut-être, qu'il peut y avoir une majorité de gauche qui reposerait sur le Parti Socialiste catalan, sur Esquerra Republicana et Podemos, qui sera l'arbitre des conflits peut-être.
Est-ce qu'on attend, alors on va y venir à Podemos, c'est effectivement, est-ce qu'on attend d'abord une participation massive? Cette fois, on parle de 80 et quelques pourcents.
Il y a plus d'une dizaine de sondages qui est paru, chaque parti commandant son propre sondage. On s'imagine comment autant d'instituts peuvent travailler en ce moment. Mais tous mettent en avant, bien sûr, une très forte participation, une mobilisation de cette majorité silencieuse que tout le monde a voulu faire sienne et que tout le monde a voulu faire parler ces derniers jours. Alors, on sera vraiment fixé.
Est-ce qu'elle existe réellement, cette majorité silencieuse? C'est tellement compliqué à quantifier tout ça.
Oui, la société catalane est surtout divisée vraiment en deux camps irréconciliables. Pour l'anecdote, on peut signaler ce qu'indiquait un sondage un peu bizarre qui est sorti ce week-end dans un journal catalan, qui disait que 40% des gens ont décidé de ne pas parler politique ce prochain week-end pendant les fêtes de famille.
Et peut-être qu'ils font bien, oui. Alors, on va essayer de faire quelques hypothèses. 1, il faut 68 sièges pour avoir
tout
la majorité absolue.
135 députés.
Alors, imaginons que les indépendantistes gagnent avec les 68 sièges. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
On continue. Alors là, c'était... parce qu'il y a eu différents temps dans la campagne. Il y a eu des temps où tous les partis indépendantistes, donc Esquerra Republicana, le parti de M. Puigdemont, Parti démocratique de Catalogne, puis cette fameuse gauche de la gauche, cette coupe, on dit que eh bien, si la majorité revenait, eh bien, on continuerait, on restaurerait ce qui a été destitué par l'application de ce fameux article 155. Le chef de la police serait remis dans ses fonctions. On repartirait sur le chemin de l'indépendance et sur l'avancée vers cette république catalane qui était proclamée au mois d'octobre.
Mais légalement, notamment le chef de la police, par exemple, est-ce que tout ça est possible ou pas ?
C'est un peu un scénario impossible parce que d'ores et déjà, le Parti socialiste a reconnu qu'effectivement, dans ce cas-là, eh bien, on soutiendrait à nouveau une intervention du pouvoir central. Ce qui laisse craindre ce que certains politistes là-bas appellent un enquistement de la situation.
Sauf que Madrid ne fera peut-être pas les mêmes erreurs qu'après le référendum, en envoyant la police, etc.
C'est pas tant des erreurs que ça, parce que c'est vrai que le Parti populaire est en très mauvaise passe. Peut-être que pour la première fois depuis le retour de la démocratie, le Parti populaire n'aura peut-être aucun élu au Parlement régional. Mais il gagne ailleurs en Espagne, bien sûr. Et là, il renforce son pouvoir, contrairement à ce qu'on disait ici en France. Je suis certain du côté de certains éditorialistes qui n'avaient pas bien étudié la situation.
Est-ce que, avec la tournure qu'ont pris les choses, et y compris d'ailleurs qui a provoqué la fuite de Puigdemont, est-ce que vous diriez que Rajoy s'est tiré une balle dans le pied dans cette histoire, qu'il a mal géré l'histoire de l'indépendance, ou finalement il a fait ce qu'il fallait faire, ou en tout cas ce qu'il avait entre les mains?
Il a très bien calculé pour que la droite reste au pouvoir en Espagne, et ça c'est très bien joué. Après, bien sûr, la situation reste assez dramatique en Catalogne. Lui peut arguer du fait, par contre, tout de même, j'allais dire que l'article 155 s'applique très bien. Monsieur Rajoy était ce week-end à Barcelone pour soutenir son candidat. Il disait, voyez, on nous promettait la fin du monde en cas d'application de cet article 155. Nous sommes intervenus, nous restaurons la légalité. Et ça, c'est un résultat positif à ses yeux, dont il peut se pourvoir aux yeux des Espagnols qui le soutiennent.
Est-ce que la raison pour laquelle certains indépendants, dont on parlait tout à l'heure, et notamment ceux d'Oriol Junqueras, dont vous rappeliez effectivement qu'il est en prison, le fait qu'ils mettent un peu d'eau dans son vin en disant mais attendez, on peut discuter avec Madrid, est-ce que c'est une manière d'essayer de faire lever le fameux article 155? Comment ça se lève, ça, en fait?
Oui, parce qu'en fait Esquerra Republicana s'est rendu compte, moi je l'ai vu en m'entretenant avec certains militants indépendantistes qui étaient prêts à passer dans la clandestinité le lendemain de la proclamation de l'indépendance, que 47% des voix, 50%, 51% des voix, c'est pas assez, il faut à nouveau prendre son souffle, ces élections vont servir à ça aussi, à chacun à compter un petit peu ses forces, à prendre son souffle pour fédérer un projet autour d'une plus grande majorité plus tard.
Et c'est possible ou pas ?
C'est possible d'ici 15 à 20 ans, avec une droite aussi espagnole aussi obtuse face à eux, et ça peut très bien fonctionner.
Mais le laps de temps, selon vous, c'est celui-là, en fait. Pour revenir là, c'est 15 à 20 ans.
Voilà, et montrer qu'on sera de bons gestionnaires dans ce laps de temps.
Vous allez rester avec nous, Christophe Barré. Je voudrais qu'on fasse un aller-retour rapide jusqu'à la Catalogne. Bonsoir, Valéria Gaillard.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au journal El Punt Avui, journal indépendantiste. Vous êtes journaliste culturel, je voulais le rappeler ici. Ce qui nous intéresse avec vous, c'est qu'est-ce qu'on dit dans la rue en ce moment à Barcelone? On disait tout à l'heure que à la fois la mobilisation promet d'être importante, mais que les fractures qui ont été révélées au moment de l'indépendance du référendum sont encore là. Qu'est-ce qui se dit en ce moment dans la rue de Barcelone?
Et c'est tout à fait vrai. Avant, vous avez parlé même de situation dramatique. Mais je pense que c'est vraiment ça, parce qu'on respire une ambiance de beaucoup de soucis, de peur et même de tristesse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi deux personnes qui sont en prison, qui sont les deux Jordis, Jordi Cuixart et Jordi Sánchez, qui sont deux chefs des deux mouvements de la société civile. Ils ne sont pas des politiciens, qui ont été mis en prison il y a déjà 2 mois. Et alors, c'est vraiment une campagne qui se déroule dans une situation d'exceptionnalité extrême politique. Et on voit dans l'ambiance qu'il y a une polarisation de points de vue. Et parfois, on évite de parler de politique avec même des copains ou dans le bus, parce qu'il y a la tension, on la respire dans l'air.
Valéria Gaillard, est-ce que les indépendantistes ont été déstabilisés, peut-être d'abord, par l'attitude de Carles Puigdemont, son départ à Bruxelles? Est-ce que tout ça a été bien perçu et revenu dans l'ordre, si je puis dire, puisqu'on voit bien que sa popularité, elle, n'a pas bougé? Est-ce qu'il y a eu quand même un moment de flottement où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Mais moi, je peux parler de mon
en
point
votre
de
nom
vue. Personnellement, oui. Je trouve qu'il a bien fait. Il a bien fait parce que nous vivions dans un état où la séparation de pouvoir n'est pas évidente. On l'a vu même ce week-end, la vice-présidente Soraya de Santa Maria, elle s'est vantée de que M. Rajoy avait mis les chefs du mouvement indépendantiste en prison. Alors voilà, c'est elle-même qui l'a dit, non ? Elle s'est délatée en quelque sorte. Alors voilà, dans un état comme ça, je pense que la meilleure option, c'est de partir à Bruxelles. On a vu que là-bas, au moins, la justice marche autrement.
Est-ce que vous parlez des cassures qui restent encore les mêmes et qui sont encore importantes dans la société à Barcelone? Est-ce que vous l'attendez, Carles Puigdemont? Parce que le bruit qu'il va revenir au moins pour un meeting ou avant les élections, il est forcément venu jusqu'à nous, donc fortiori jusqu'à vous. Est-ce que vous l'attendez? Et s'il revenait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la population fait barrage pour éviter son arrestation? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Mais nous, moi personnellement, je suis allée même à Bruxelles pour lui donner mon soutien. Alors s'il va venir ou pas, je ne sais pas, mais je n'aimerais pas qu'il se mette en danger. Et parce qu'on a vécu une violence extrême très, très forte pendant le référendum. Il y a encore de blessures, il y a un choc, les gens ils sont encore en état de choc. Et je ne veux pas avoir une autre situation comme celle-là, d'avoir de protéger le Parlement ou de situations violentes. Non, s'il doit venir dans ces cas-là, je préfère qu'il ne vienne pas.
Alors, s'il gagnait, Valéria Gaillard, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est prêt à Barcelone à se dire que le patron de la Generalitat n'est pas à Barcelone, mais reste à Bruxelles? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Je ne sais pas franchement, mais c'est ça le problème, non ? Que même s'ils gagnent le bloc indépendantiste, s'ils ont l'article 155 qui marche très bien, avec lui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce qu'à la fin, on dit, mais on vit dans une dictature, c'est ça la démocratie, parce qu'il faut rappeler que c'est président, il a été élu... démocratiquement et voilà, et nous sommes en face de nouvelles élections démocratiques et là il faut voir Madrid, qu'est-ce qu'il va faire, mais on craint qu'avec le 155 voilà, il continue la possession de l'institution catalane, l'intervention de l'institution catalane de la Generalitat.
Une dernière question, Valéria Gaillard. Si d'aventure, vous avez entendu Christophe Barré à l'instant, si effectivement les indépendantistes gagnent, on reparlera indépendance, est-ce que vous pensez vous aussi qu'il faudra attendre 10, 15 ans avant de repartir à la charge tel que les indépendantistes sont partis à la charge récemment? Ou est-ce que ça peut se faire maintenant, selon vous? Il faut profiter d'une victoire s'il y en a une?
Je pense qu'un changement si important que l'indépendance a besoin de beaucoup de temps, de dialogue, parce que les Catalans, nous sommes un peuple pacifique, nous ne voulons pas d'avoir à nouveau des situations de violence. Et il faut faire un dialogue avec Madrid, en fait, c'est ce que nous demandons depuis longtemps. Mais Madrid ne veut pas écouter. Et alors, si c'est question de 10 ans, de 20 ans, je pense qu'il faut attendre ou il faut faire les choses bien faites, non, avec un dialogue et en parlant sur une table.
Merci beaucoup Valéria Gaillard pour votre regard depuis Barcelone. Christophe Barré, je vous voyais écouter avec attention ce que dit Valéria Gaillard depuis Madrid. On entend effectivement pas si vite en fait, on est patient nous en fait, on peut attendre.
Oui, tout à fait. Et c'est un petit peu tout l'enjeu, un petit peu, et toute la campagne de Podemos qui est sur ce thème de vouloir ni déclaration unilatérale d'indépendance et ni application de l'article 155. C'est vrai que Podemos fait un reproche à cette indépendance, c'est d'avoir ramené la Catalogne avant le statut d'indépendance, avant les années 1980, dans le statut qu'elle avait avant 1980. Donc aujourd'hui, pour qu'il y ait une majorité, il faut que Esquerra Republicana renonce à l'indépendance. Mais
il faut rappeler que Podemos était contre l'indépendance, mais contre aussi l'application effectivement de l'article 55, donc plus d'autonomie, d'accord, mais pas d'indépendance. Est-ce que les faiseurs de rois, c'est eux finalement?
C'est eux, ils sont complètement, mais ils sont aussi étirés entre deux jeux. Savez-vous comment on dit la clé en, en catalan, c'est Laclau. Mmh. Et Laclau, bien sûr, c'est dire cela, c'est faire un clin d'œil un petit peu à Ernesto Laclau, à Chantal Mouffe, aux théoriciens du populisme de gauche qui ont donc qui théorisent cette reconquête du pouvoir. Mais les thématiques de la campagne de Podemos, c'est le social, c'est l'égalité. C'est sur ces thèmes-là qu'ils essaient de trouver une voie médiane. Mais en période de très forte polarisation, ils risquent de ne pas faire un très bon score. Un score qui suffira à faire des rois, mais pas à conquérir le pouvoir. Et un score aussi qui les laissera peut-être un petit peu en marge dans le reste du jeu politique espagnol. C'est-à-dire que ce grand mouvement Podemos qui était né avec le mouvement des indignés en 2011, eh bien, il voit sa fenêtre d'opportunité un petit peu se refermer avec cette grande polarisation autour de la question catalane.
Une dernière question, Christophe Barret. Si une voie médiane finit par être trouvée, est-ce que c'est le moyen aussi de faire revenir les entreprises qui étaient parties,
oui,
l'économie qui doucement commençait à douter?
C'est une vraie épine dans le pied des indépendantistes. Bon, ils disent que c'est pas très grave, ce sont les sièges sociaux qui partent, ce sont pas les unités de production qui sont délocalisées. Mais on sent bien, quand on écoute les émissions de radio, quand on regarde les débats, que c'est difficile pour eux d'argumenter en maintenant le cap de l'indépendance pour maintenir une prospérité économique qui a déjà perdu quelques dixièmes en termes de PIB.
Allez, les élections, c'est dans 4 jours. Ce sera l'occasion de revenir et de nous en reparler. Merci beaucoup,
merci.
Christophe Barret, de votre passage d'un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite du Tour du Monde, c'est à Baltimore, au milieu des mères qui ont perdu un fils, parfois deux fils, à cause de l'extrême violence de cette ville. À suivre aussi le Brexit saison 2. Vous verrez qu'on y parle rock'n'roll ce soir. Le rendez-vous d'Alexandra Akoun. Alexandra, les médias dans le monde, puisque Russia Today s'installe en France. A priori, ça démarre ce soir. Vous avez été chercher comment ça marche ailleurs, cette chaîne.
Eh ben oui, je vais vous expliquer comment ça marche en Angleterre, aux États-Unis, et ça n'est pas sans problème.
Voilà, et des fois, effectivement, on l'a vu, il y a eu quelques polémiques. 18h55, quand on y Bélanger. L'Afrique du Sud s'est trouvé un nouveau nom ou pas?
Ah, peut-être. En tout cas, le résultat est tombé il y a quelques minutes et on verra ça ensemble puisqu'il faut maintenir un peu de suspense.
Eh bien, le suspense est là. Voici Eclipse. We are trained sur France Inter.
Hear me now, life gets unpredictable. Ooh, I swear bigger to go, and that's the better I shoot. Cause we are trained, we are trained, trained for the cause. I'm coming for you, come run, yeah, I'm gunning for you. We are trained, yeah, we are trained, trained for the cause.
Trained, nous dit Eclipse sur France Inter. Voici Florence Paracolo sous les radars. Power Hit Radio.
Magic FM. Terra d'aventure. Desservi, prise faux. 60 minutes.
Florence Liradar, avec l'actualité internationale qui nous a échappé et les Philippines ce soir pour commencer, où décidément ce président Rodrigo Duterte est quand même quelqu'un de très particulier.
L'homme qui demande à son peuple de tuer les trafiquants de drogue et les toxicomanes. L'homme qui a plaisanté sur le viol et le meurtre d'une religieuse australienne qui a traité Obama et le pape François de fils de pute et qui avait prévenu « Oubliez les droits de l'homme, si je deviens président, ça va saigner ». Ce même homme s'est adressé à la communauté gay et lesbienne d'une grande ville du Sud hier soir, et voilà ce qu'il leur a dit. Je dis que je suis pour le mariage sexuel, on imagine qu'il veut dire homosexuel. Si c'est la tendance des temps modernes, si ça ajoute à votre bonheur, je suis pour. Pourquoi imposer une moralité qui ne fonctionne plus, qui est presque dépassée? Et ouais, le problème, c'est qu'il va falloir changer la loi, dit-il aussi. Mais nous pouvons changer la loi dans un pays où 80% de la population est catholique fervente et où, en sus du mariage gay, le divorce et l'avortement sont toujours interdits. Étonnant, président, vraiment, que ce Rodrigo Duterte.
C'est le moins qu'on puisse dire. Direction le Québec, Florence, où on ne plaisante pas avec la langue, stide de l'eau.
Vous savez que le français est la seule langue officielle de cette province canadienne, françoise, je vous parle.
Ça va pas du tout.
Fabienne. Îlot francophone au nord du continent américain, donc on doit parler français dans les institutions, dans les commerces, dans les palais de justice. Et tout ça est très réglementé. La charte de la langue française précise par exemple que la publicité commerciale et l'affichage public peuvent être rédigés en français et dans une autre langue, à condition que le texte français soit au moins deux fois plus gros que celui rédigé en anglais, par exemple. En anglais, parce qu'évidemment tout le monde est bilingue. Au Québec, il y a même une minorité d'anglophones. C'est donc assez naturellement que les commerçants de Montréal, ville cosmopolite, vous accueillent par un « bonjour, hi, salut » en anglais. Habitude irritante pour la ministre québécoise de la Culture et pour le Parti québécois qui a fait passer une motion la semaine dernière à l'Assemblée.
Que l'Assemblée nationale réaffirme clairement à tous que le français est la langue officielle et commune du Québec. Qu'elle prenne acte que 94% des résidents du Québec comprennent le français. Qu'elle rappelle que le mot « bonjour » est un des mots de la langue française les plus connus chez les non-francophones du monde. Qu'elle rappelle que ce mot exprime magnifiquement la convivialité québécoise. Qu'en conséquence, elle invite tous les commerçants et tous les salariés qui sont en contact avec la clientèle locale et internationale de les accueillir chaleureusement avec le mot « bonjour ».
Bonjour, motion votée à l'unanimité par le Parlement québécois, motion que les commerçants trouvent absolument ridicule et dont la minorité anglophone s'offusque, mais les autorités québécoises ont la trouille. Fabienne, le français comme langue principale au travail a reculé de 2,3% en 10 ans, donc l'extrême vigilance est de mise. À quelques exceptions près, l'Office québécois de la langue française autorise depuis la rentrée la vente de grilled cheese et plus seulement de sandwich au fromage fondant. On a le droit désormais de dire « drag queen » plutôt que « homme arborant une identité féminine, s'habillant habituellement d'une manière colorée et extravagante, souvent dans le cadre d'un spectacle.
Oui, »
Évidemment,
plus
c'est plus court. Enfin, l'Office reconnaît que faire un smash au tennis, c'est quand même beaucoup mieux que de produire un coup d'écrasement. Voilà, Fabienne.
Merci beaucoup, Florence Porocuelos, dans Un jour dans le monde.
À demain. Konnichiwa.
France Inter. Le 18-20. Un jour dans le monde.
Et le reportage ce soir nous emmène à Baltimore, aux États-Unis.
My name is Alice Oaks. I am not a part of Moms. I am my own organization called Save. Survivors Against Violence Anywhere. I lost.
Et vous allez comprendre dans un instant pourquoi je vous emmène entendre cette femme qui vient de dire qu'elle a perdu deux de ses enfants. Nous sommes à Baltimore, sur la côte est des États-Unis, à moins d'une heure de Washington, la capitale. Pourquoi Baltimore ? Parce que en cette fin 2017, la ville va enregistrer un triste record, celui du nombre de morts par balle dans les rues. Accrochez-vous, 331 décès enregistrés depuis le début de l'année. Pour 620 000 habitants, ça fait presque un mort par jour. Baltimore, c'est l'une des villes les plus dangereuses, plus dangereuse que New York, plus dangereuse que Los Angeles, en nombre d'homicides par habitant, plus dangereuse que la célèbre Chicago. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Fabienne.
Grégory, il faut dire que si le centre-ville de Baltimore et le port notamment ont été entièrement rénovés, de lofts en briques, très bobo local, plusieurs quartiers restent complètement livrés aux gangs, aux armes, au trafic de drogue. Il y a 2 ans, des émeutes ont éclaté dans la ville après la mort d'un jeune homme. Il s'appelait Freddie Gray et des mères de famille endeuillées ont décidé de se battre contre autant de violence. Et c'est votre reportage, Grégory.
Elles ont donné rendez-vous devant l'église Saint-John Alpha et Omega en plein cœur de West Baltimore. Nous sommes dimanche après-midi, les rues sont quasi désertes et en arrivant dans le quartier, on est frappé de voir bloc après bloc toutes ces maisons abandonnées, portes et fenêtres condamnées par des planches de bois. Celle qui nous accueille s'appelle Pam Stein. Elle est l'une des salariées de l'association Moms, Mothers of Murdered Sons, les mères de fils assassinés.
Ici, on est dans la partie ouest de Baltimore. On est à 6 blocs de l'endroit où les émeutes de 2015 ont éclaté après la mort de Freddie Gray. Toute cette zone est vraiment déprimante. C'est tellement triste de voir tous ces gens qui ont besoin d'un logement décent à Baltimore et dans ce quartier et de voir en même temps toutes ces maisons murées.
Est-ce que c'est un des endroits les moins sûrs d'Amérique ?
Oui, il faut vraiment être prudent quand vous marchez dans les rues ici. Même quand vous conduisez, quand vous circulez à pied, les gens vont voir tout de suite que vous n'êtes pas du quartier.
À l'intérieur de l'église, tandis que le chœur gospel répète pour une prochaine cérémonie, un groupe d'une 20aine de femmes s'est réuni dans une arrière-salle. Une à une, elles se lèvent, se présentent et racontent leur histoire.
J'ai perdu mon seul et unique fils, il avait 24 ans. Il était heureux de vivre, un garçon calme, modeste. Quand je pense à l'endroit où se trouve mon fils maintenant, c'est pas une adresse où je peux aller le voir et frapper à sa porte comme j'en aurais envie. Mais son meurtrier, lui, il est encore en liberté. Et les autres condamnés qui sont en prison reçoivent des visites. Leur famille les voit à travers un plexiglas, comme ça. Ils ont des coups de téléphone, mais moi, mon fils, je ne lui parle plus que dans mes rêves. J'ai un neveu, il lui ressemble tellement, on dirait son jumeau. Parfois, ça me fait tellement mal que j'arrive même plus à regarder cet enfant. Mais on veut que ça change. On veut que ça aille vite, comme ça. Comme ça, nos enfants meurent, tous les jours.
Celle qui a créé cette association des mères de fils assassinés s'appelle Daphne Alston. Le 30 juillet 2008, son fils, Terry, 22 ans, a été abattu alors qu'il sortait d'une soirée organisée près de la caserne des pompiers. Depuis, Daphne a réuni autour d'elle une 100aine de femmes qui se retrouvent ici le dimanche, qui organisent des marches dans le quartier ou se rassemblent aux funérailles de tel ou tel fils.
Notre but, c'est que les gens réalisent ce qui est en train de se passer. Et ensuite, on veut éradiquer cette violence. À Baltimore, chaque parent s'inquiète pour son enfant. On a peur quand ils vont à l'école, quand ils marchent dans le quartier, quand ils conduisent leur voiture ou s'ils croisent un policier. Je dis souvent aux parents, le plus beau cadeau que vous puissiez avoir quand vos enfants rentrent un peu tard à la maison, c'est d'entendre la clé ouvrir la porte et d'entendre leur voix dire quand ils rentrent « Maman, je suis à la maison ». Tout le monde ne parle que de ça ici, mais personne ne fait rien. La semaine dernière, j'ai vu le gouverneur à la télé. Il rendait hommage à quelqu'un qui a été tué par un automobiliste sous. Il était presque en larmes. Il disait à la famille qu'il était désolé. Mais nous, il ne nous a jamais invités pour parler de nos enfants disparus. Ils s'en foutent que des jeunes noirs meurent ou s'entretuent. Et nous, on continue à aller à toutes ces funérailles. C'est le bazar pendant 3 ou 4 jours. Et puis après, plus rien, pas de procès. Aucun de nous quasiment va au tribunal. Et on continue à crier. Et le dossier de mon fils, et celui de ma fille, que faites-vous? En Amérique, on est censé avoir la justice. Les meurtres doivent être condamnés.
Le Baltimore Sun, le quotidien local, tient un décompte quotidien du nombre de victimes et a même créé un site internet où chaque mort est recensé sur une carte de la ville. 331 homicides depuis le début de l'année.
Et encore, ça ne prend pas en compte les blessés, les survivants.
Le pasteur Stanley Cruz est celui qui accueille dans son église l'association de Daphne Alston.
Oui, ça me brise le cœur. On voit toutes ces vies gâchées. On voit ces jeunes se détruire. Ils ne s'imaginent même pas vivre après 25 ans ou 20 ans. C'est vraiment très triste de voir une génération avec un tel potentiel, mais avec si peu d'espoir. Et mon boulot, c'est de leur redonner un peu d'espoir.
Au début des années 2000, la série télévisée The Wire, diffusée sur HBO, racontait le quotidien de Baltimore, de ses gangs et de ses violences. Mais les scénaristes de cette série, plusieurs fois primés pour son réalisme, n'avaient pas imaginé que dans certains quartiers, la situation serait, comme a été obligé de le reconnaître récemment la maire de la ville, hors de contrôle.
La musique du feuilleton The Wire. En conclusion de votre reportage, Grégory Philips, merci beaucoup. On se retrouvera tout à l'heure dans le journal de 19h puisqu'on a appris à l'instant qu'un train de passagers a déraillé. C'est dans l'état de Washington, au nord de la ville d'Olympia, un train qui assurait la liaison entre Seattle et Portland. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y aurait plusieurs morts et plusieurs dizaines de blessés aussi. On y revient tout à l'heure avec Sébastien Paour dans le journal de 19h.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Saint-Es.
This is an historic moment.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série, le lundi, en British, dans le texte, Brexit saison 2. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Antoine, chez vous, on l'a vu la semaine dernière, ça bouge enfin. Il reste une dizaine de jours quand même pour négocier un accord commercial entre Londres et Bruxelles. Et chez les fans de musique, on s'inquiète parce que le Brexit pourrait tuer le rock'n'roll. Qu'est-ce que ça veut dire?
Absolument, pas les grands groupes, hein, évidemment, comme Blur ou comme les Stones. Mais le Brexit menace clairement le rock indépendant. Les petites formations comme Black Honeys, Boycats, The Carnabies, des groupes qui sont suffisamment connus pour faire des tournées à l'étranger, mais qui n'ont souvent pas de grosses infrastructures, pas de gros labels et donc pas de gros moyens. Pour eux, le Brexit risque tout simplement de coûter trop cher. C'est ce qu'explique Sir John Sorrell, le fondateur de la Fédération des industries créatives. Il explique, il faudra demander un visa pour chaque musicien dans chaque pays où le groupe se produira. Il faudra payer près de 3000 euros par an pour avoir le droit de passer les frontières avec du matériel, des guitares, des amplis. Ce sera beaucoup trop cher et c'est aussi ce que dit Lord Wood, ancien conseiller à la culture du 10 Downing Street. Il demande au gouvernement de réfléchir à une sorte de passeport spécial destiné aux musiciens. Sinon, dit-il, les tournées se résumeront à quelques dates seulement dans un ou deux pays. Et ce n'est pas seulement une question de diversité culturelle. L'industrie de la musique au Royaume-Uni génère 4 milliards de revenus chaque année. La Grande-Bretagne, depuis la Beatlemania, c'est le deuxième exportateur de musique du monde derrière les États-Unis. Et du coup, l'enjeu reste colossal.
Alors, l'enjeu, justement, face à ces négociations commerciales, Antoine, qui commencent, et toutes ces questions qui sont soulevées, voici que les anti-Brexit commencent à se réveiller. Il était peut-être temps.
C'est le grand retour, oui, il était temps. Ils ont même un chef de file. Retenez ce nom, Mark Mallock Brown. C'est peut-être lui qui va arrêter le Brexit. C'est un travailliste tendance gauche centriste, ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Gordon Brown, ancien chef de cabinet de Kofi Annan à l'ONU, ancien haut responsable de l'ONU lui-même. Il est aussi ancien journaliste et conseiller en communication, ça a son importance. Son idée, c'est de réunir les opposants de toutes les tendances, de droite comme de gauche. Ça peut paraître utopique, mais ce n'est pas impossible. En fait, la semaine dernière, plusieurs députés conservateurs rebelles ont déjà commencé à voter aux côtés des travaillistes à l'Assemblée. C'était un gros revers, une grosse défaite pour le gouvernement. Et si le mouvement s'amplifie, il pourrait bloquer totalement les négociations avec Bruxelles.
Il compte s'y prendre comment quand même? Parce qu'on a un peu l'impression que c'est joué, non? C'est fini? C'est pas perdu d'avance son histoire?
Peut-être pas. En tout cas, il le dit clairement, Mark Mallock Brown, il n'y a qu'une seule solution, il faut manipuler l'opinion publique. En fait, il faut surtout faire la campagne anti-Brexit qui n'a jamais vraiment eu lieu, même avant le référendum. C'est vrai, les opposants au Brexit ont défilé dans les rues, ils ont lancé des actions en justice, ils ont fait des tribunes dans les journaux, mais il n'y a jamais eu ici de mouvement global, parce qu'il y avait plusieurs sections différentes, Open Britain, Best for Britain, et puis le mouvement européen, tous manquaient d'arguments concrets. Maintenant, on va commencer à parler des accords commerciaux, on va parler des finances et on va pouvoir expliquer aux électeurs qu'ils se sont fait avoir, c'est ce que dit Mark Mallock Brown. On va rester sur le terrain émotionnel, dit-il, mais on mettra en avance les conséquences sur le portefeuille des Britanniques, les prix qui augmentent, le système de santé qui va mal. Pour lui, le Brexit, c'est de la vente abusive. On a promis aux électeurs, dit-il, qu'ils allaient faire des économies. Eh bien, c'est faux et c'est le principal argument sur lequel on va appuyer la campagne.
Alors, une guerre de communication en perspective, c'est pas la première, qui passe aussi par les tabloïdes, Antoine, qui eux sont plutôt pro-Brexit pour le coup.
Ah, toujours. Si vous prenez le Sun, le Daily Telegraph, le Daily Mail, à eux trois, ils écrasent totalement le débat sur le Brexit avec des unes qui ont comparé au fil des mois les immigrés à des cafards, des articles xénophobes, des anti-européens qui se sont exprimés dans les colonnes, mais qui ont eu du poids. C'est ce que montre une étude de l'université de Loughborough. C'est à cause de ces trois tabloïdes que l'image de l'Europe dans les médias est ici à 80% négative. Ou plutôt, c'est à cause d'elle qu'elle était négative, parce que c'est un peu en train de changer. C'est ce que montre un sondage YouGov publié ce matin. On vient d'avoir les résultats. Il y a maintenant, au Royaume-Uni, une personne sur deux qui pense que le Sun a une influence négative sur la société britannique. 5% seulement de gens qui pensent que le journal peut avoir un effet positif. Et là aussi, évidemment, les anti-Brexit espèrent bien en profiter pour se faire entendre.
Merci beaucoup Antoine Gignot. En parlant d'influence négative ou positive, on va parler de Russia Today. C'est dans un instant, dans Un jour dans le monde. Voici Marvin Gaye. Salut.
was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you.
Si on l'aime, Marvin Gaye sur France Inter.
France Inter. Un jour dans le monde.
Les rendez-vous d'un jour dans le monde, rendez-vous avec les médias du monde, Alexandra Akoun. La grosse actualité du jour, c'est le débarquement, on va dire ça comme ça, de RT, Russia Today, donc en France. Ce sera ce soir, on dira exactement à quel moment. Mais ce qui nous intéresse dans Un jour dans le monde et nous aidera à comprendre comment ça peut se passer chez nous, c'est comment ça se passe ailleurs, justement. Cet organe russe, cet organe de Vladimir Poutine, cet organe d'influence, la télé, Alexandra, elle est installée ailleurs. Et qu'est-ce qu'on y voit alors?
Eh bien, sur cette télé, RT qui globalement ne se définit pas évidemment comme un instrument d'influence russe, mais comme une chaîne d'information internationale comme les autres, qui offre une alternative aux médias occidentaux en brossant notamment un portrait impartial de la Russie. Lancé en 2005 avec un budget pharaonique de 300 millions de dollars, issu directement du Kremlin, Russia Today a rapidement fait des petits.
Coming up this hour, Amnesty International says EU countries bear much of the blame for the cruelty.
Mientras que las tropas rusas regresan de Siria a su base permanente
desde... Et 12 ans plus tard, RT dispose de 8 chaînes de télé émet en 4 langues dans plus d'une centaine de pays. Elle a des bureaux à Washington, à Miami, Londres, Paris, Tel Aviv, New Delhi, des sites internet extrêmement actifs. Point commun de ces antennes, des sujets sur la Russie qui sont toujours le reflet de la ligne officielle du gouvernement russe. Pour le reste, RT se décline en fonction des audiences ciblées, souverainistes, eurosceptiques et antilibérales en Europe. En Amérique latine, elle donne surtout dans l'anti-américanisme, avec des positions très à gauche. Au Moyen-Orient, elle est pro-Bachar el-Assad, pro-palestinienne. Les interventions politiques et militaires des puissances occidentales sont toujours stigmatisées. Enfin, RT America, qui a réussi quand même à s'offrir la star de l'interview, le célébrissime Larry King de CNN pour un show hebdomadaire, eh bien là, c'est une combinaison de positions anti-néoconservateurs et anti-libérales. En tout cas, le récit global est toujours le même, celui du déclin implacable de l'Occident.
Alors, l'une des spécialités, Alexandra, c'est aussi de convoquer des experts dont personne n'a jamais entendu parler.
Qui eux-mêmes représentent des institutions que personne ne connaît, ce qui permet à RT de dire, vous voyez bien, nous on donne la parole à des gens qu'on ne laisse jamais s'exprimer dans les médias mainstream. C'est comme ça qu'un journaliste allemand a découvert il y a 3 ans qu'un de ses compatriotes, régulièrement invité sur le canal anglophone de la chaîne, en tant qu'expert des questions allemandes et du Moyen-Orient, était en fait l'éditeur d'un magazine néo-nazi. Tout ça participe d'un même objectif, saper toute notion de vérité empirique.
En tout cas, de connivence avec le Kremlin, la chaîne, ça, elle s'en est toujours défendue.
Toujours, même lorsque les accusations venaient de l'intérieur, comme en 2014, où pour protester contre la couverture sur sa chaîne de la Crimée, une présentatrice de RT America, Liz Wall, démissionne en direct.
En tant que reporter pour cette chaîne, je fais face à de nombreux défis éthiques et moraux. Je viens personnellement d'une famille, mes grands-parents en l'occurrence, qui est arrivé en tant que réfugié pendant la révolution hongroise pour échapper, ironiquement, aux forces soviétiques. Voilà pourquoi je ne peux pas faire partie d'un média fondé par le gouvernement russe qui blanchit les actions de Poutine. Je suis fière d'être américaine. Je crois en la diffusion de la vérité Voilà pourquoi, après ce flash, je démissionne.
Ça fait de l'effet, hein, quand même.
Un petit peu, ouais.
Quelques mois plus tard, une autre journaliste américaine, Sarah Firth, jette l'éponge, elle aussi explique sur Twitter « Nous travaillons pour Poutine. Chaque jour, on nous demande, si ce n'est d'ignorer totalement la vérité, au moins de l'atténuer. »
Alors aujourd'hui, RT est clairement dans le collimateur du gouvernement américain.
La chaîne est même au cœur d'un bras de fer entre Moscou et Washington, digne des grandes heures de la guerre froide. Soupçonnée d'avoir tenté d'influer sur la campagne présidentielle américaine, la chaîne a été citée plus de 100 fois par le renseignement américain dans son rapport sur la campagne ordonnée par Poutine. RT a été contrainte le mois dernier de s'enregistrer aux États-Unis comme agent de l'étranger. Son accréditation au Congrès lui a été retirée. Elle est désormais sous haute surveillance. Moscou a immédiatement riposté avec l'adoption d'une loi du même acabit à l'encontre des médias américains présents en Russie et financés par Washington. Et désormais, dès qu'il le peut, Vladimir Poutine fustige la liberté de la presse made in USA, comme lors de sa dernière conférence de presse, c'était jeudi dernier.
Russia Today ou encore Sputnik, leur part sur le volume total des informations est minime pour comparer aux médias américains et ceux qu'ils font partout dans le monde et en Russie. Et pourtant, les activités des médias russes sont considérées comme en menace. Alors, où est cette fameuse liberté des médias?
Alors avec l'Europe, c'est plus calme, bien qu'Emmanuel Macron a clairement qualifié RT et le site d'Info Sputnik d'organes d'influence ayant produit des contre-vérités durant la dernière campagne présidentielle en France. Au Royaume-Uni, en 4 ans d'existence, RT a fait l'objet de 14 avertissements de l'Ofcom, l'équivalent de notre CSA, pour des contenus jugés inexacts ou partiaux, notamment sur la Syrie et l'Ukraine.
Merci beaucoup Alexandra Hakoun. C'est à voir donc ce soir, à partir de 19h,
a priori sur Internet et les Freebox.
Et les Freebox, merci beaucoup. Vous allez regarder pour nous et voir justement ce que ça donne. Anthony Bélanger est là. Pour l'édito d'Un jour dans le monde, Anthony, direction l'Afrique du Sud qui a changé d'air politique ou pas alors?
Eh oui, au revoir Zuma ou Amba Gachle-Zuma, pour le dire dans une des nombreuses langues sud-africaines. En l'occurrence, le Xa, la langue de Nelson Mandela, oui, c'est une langue
oui,
acrylique,
oui,
tout
vous
à
faites
fait.
Très bien.
Depuis ce week-end et encore ce soir, l'ANC se choisit donc son prochain président. Zuma, c'est Jacob Zuma évidemment, l'actuel président sud-africain. Alors les deux candidats finalistes, l'un était donc Cyril Ramaphosa, vieux briscard de la lutte contre l'apartheid. On a même pensé un moment qu'il succéderait à Mandela. Et puis l'autre candidat était donc une candidate, elle s'appelait Kosazana Dlamini Zuma, elle avait 68 ans, elle est une politique rouée, plusieurs fois ministre, ex-épouse de Jacob Zuma et de qui elle a eu 4 enfants. Le vote des 5000 délégués a eu lieu dans une ambiance électrique, a parfois viré au pugilat, on peut le dire, et le résultat est Cyril Ramaphosa, le favori des sondages et des pronostics. Il deviendra donc président en 2019.
Il faut rappeler, Anthony, que les Sud-Africains votent au suffrage universel pour leur président.
Oui, bien sûr, mais c'est presque une formalité pour le candidat désigné de l'ANC. Depuis la fin de l'apartheid, depuis 23 ans donc, l'ANC règne absolument sans partage sur la vie politique du pays. Prenez les municipales de l'année dernière. Certes, le parti de Mandela est en perte de vitesse. Il a perdu les villes de Pretoria et de Johannesburg. Mais bon an, mal an, ses candidats ont rassemblé 54% des voix au niveau national. Donc lorsque qu'un congrès du parti se choisit un président, eh bien il choisit aussi un président pour le pays tout entier. Les urnes immanquablement viennent toujours confirmer l'affaire. Du coup, l'important, c'est le profil du vainqueur. Cyril Ramaphosa, donc, est le candidat des grandes entreprises, de la classe moyenne, notamment blanche, du libéralisme. Bref, c'est la droite de l'ANC. Il est aussi soupçonné de vouloir se débarrasser au plus vite de Jacob Zuma, et ce, dès l'année prochaine, vite fait, bien fait.
Et c'était de toute façon une élection pour ou contre Jacob Zuma, non?
Exactement, un président qui a beaucoup à pas se reprocher des scandales infinis de corruption, une économie en lambeaux avec un taux de chômage qui frôle les 30%, des infrastructures défaillantes et une fuite record des capitaux. Et pour être tout à fait juste, eh bien, il est arrivé au pouvoir en 2008, pile au début de la crise économique. Or, l'Afrique du Sud, vous savez, dépend de ses exportations de minerais et produits peu transformés, comme les produits agricoles. Exactement ce qui a chuté avec la crise. Et puis, il y a quelques bons points tout de même. La lutte contre l'épidémie de Sida, qui est une réussite. Et puis, il y a aussi et surtout la démocratie sud-africaine, vibrante, excessive, mais extrêmement vivante.
Anthony Bélanger dans Un jour dans le monde. Et Anthony, tiens, je rappelle qu'on vous retrouve en personne si on veut voir votre bouille mercredi prochain, le 20 décembre, à l'Institut du Monde Arabe pour vos rendez-vous mensuels de l'info. C'est à partir de 19h et le thème ce sera d'ailleurs rapidement
la fin de Daesh.
Allez, merci beaucoup. Il est 19h sur France Inter.